raison des circonstances que nous vivons, des événements, nous pourrions peut-être perdre la foi, puisque Jésus-Christ lui-même dit dans un de ses versets, « Et quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi ?» Donc c'est une question qui est assez, délicate, parce que ça nous interpelle, c'est envers nous. Et pour introduire ce sujet, nous allons, si vous le souhaitez, aller dans Matthieu, chapitre 12, que je vais vous lire. Alors c'est Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 32. C'est une scène qui se passe donc à l'époque de Jésus, quand il fait du bien aux gens qui viennent à lui pour lui demander justement d'être soigné. Et je dirais que c'est symptomatique du mode de pensée des ennemis de Jésus-Christ à cette époque-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, au travers de ce que nous pouvons voir et vivre, on va revenir ou on vient à cela aussi. Donc je lis le texte. Alors on présenta à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Tout le peuple en fut étonné, et il disait, « Cet homme ne serait-il point le fils de David ?» Mais les pharisiens, entendant cela, disaient, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne subsistera point. » Que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc ce royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils sont eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien s'il n'avait auparavant lié cet homme fort? Après quoi il pourrait piller sa maison? « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra le pardon ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. » Donc là, en fait, on assiste à des individus, les pharisiens en l'occurrence, qui qualifie l'action de Jésus, en fait, mal. Il vient de faire du bien à quelqu'un qui en avait besoin, et il dit qu'il agit par Satan. Or, Satan, nous savons bien que c'est le père du mensonge, c'est le premier criminel, et c'est lui qui est l'investigateur de toute la méchanceté que nous avons sur la terre, qui s'est répandue par le péché dans les hommes. Et donc, ces gens-là, voyant Jésus faire le bien, disent qu'il fait le mal, finalement, puisqu'il agit par Satan. Donc on assiste, en fait, à une inversion de valeur. Ces gens-là sont en train de dire que quelqu'un qui fait le bien, il est en train de faire le mal. Si on observe ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés, on n'en est pas encore là, mais petit à petit, ça commence à venir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que la Bible qualifie de mal, et que les personnes, la société, laisse peu à peu s'instaurer dans nos vies, enfin dans nos vies de société, en qualifiant ça comme étant de normal. Donc on a un problème de référentiel. Et donc aujourd'hui, au travers d'une multitude de choses, il faut reconnaître que on vit dans un pseudo-chaos en permanence, depuis maintenant plusieurs mois. Vous avez les manifestations régulières les week-ends. Il y a beaucoup de corruption qui apparaissent. On voit également qu'il y a une inégalité sociale, fiscale, qui a l'air de s'accroître. Il y a des attentats. Maintenant, on va dire que ça devient presque régulier. Si vous regardez ce qui se passait il y a 30, il y a 40 ans, il y avait aussi des problèmes. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même comme une accélération. Et en même temps, de façon concomitante, il y a des valeurs qui sont mises en place, comme par exemple le mariage pour tous, les sujets comme la GPA, la grossesse pour autrui, aussi la procréation médicale assistée. Enfin, il y a beaucoup de choses le fait de pouvoir travailler sur l'ADN, sur les gènes, donc de pouvoir modifier ces choses biologiques pour après faire des clones, des choses comme ça. Et donc on voit bien qu'il y a de plus en plus une dérive vers des choses qui va sortir des mains des personnes qui les pratiquent. Et donc dès le départ, à l'époque de Jésus, on commence à parler de cela, c'est-à-dire l'inversion des valeurs, appeler le bien le mal et le mal le bien. C'est pour ça que Jésus-Christ, notamment, dit que toute injure envers le Fils de l'homme sera pardonnée, mais en ce qui concerne l'esprit, ça ne sera pas pardonné, puisque l'esprit, l'esprit de Dieu, c'est l'essence même de toutes nos valeurs. C'est lui qui, au travers de sa parole, nous dicte ce qui est bon pour les hommes. Dieu a établi des valeurs qui sont intangibles. Et comme disent parfois certaines personnes, les valeurs sont non négociables. À partir du moment où elles sont destinées au bien, on ne peut pas négocier ça. On ne peut pas appeler ça le mal. Toutefois, peu à peu, on voit qu'on est sur ce chemin-là. Donc tout à l'heure, je vous disais un verset de la Bible, donc c'était Luc 18, verset 8. Mais lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et donc ça s'adresse à nous, parce qu'on voit au travers des épîtres, notamment Paul, une exhortation à persévérer dans la foi, à persévérer dans les assemblées, à se réunir ensemble, à nous soutenir les uns les autres, à devoir faire part de nos difficultés entre nous, pour que nous puissions par la prière nous soutenir, et si ce n'est pas que par la prière, mais également d'un point de vue matériel, que ce soit par l'argent ou par l'aide physique, quelqu'un qui doit déménager, ben, on donne un coup de main. Ça paraît tout à fait normal et simple. Et donc tout ceci nous est nécessaire afin de pouvoir justement conserver la foi, parce qu'il ne faut pas en douter. D'un point de vue spirituel, nous sommes attaqués, chacun dans nos vies propres, au travers de nos relations avec les autres, au travers de nos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, et au travers de ce que nous pouvons entendre ou voir, parce que malheureusement, c'est assez triste. Et comme il dit dans la Bible, c'est Paul qui le dit, que certains pensent que Dieu, que Jésus-Christ tarde à venir. Alors, en fait, il ne tarde pas à venir, mais lui seul sait que un certain nombre de personnes vont encore se convertir et vont faire partir de l'Assemblée universelle de Dieu avant son glorieux retour. Mais en attendant, il faut reconnaître que d'un point de vue spirituel, nous sommes attaqués et nous pourrions perdre courage, perdre peut-être pas la foi, mais en tout cas vaciller sur nos fondements. C'est pour cela notamment que la lecture de Francis était intéressante, puisqu'il parlait donc de la nourriture spirituelle, la nourriture de l'âme, et que donc il est important chaque jour, dans la mesure où on le peut bien sûr, de lire la parole. À titre personnel, j'ai passé des périodes où je m'étais un petit peu désintéressé de la Bible parce que j'avais l'impression de la connaître, ce qui est une idée fausse, totalement fausse. Mais parfois on peut avoir cette impression-là, à force de lire. Mais je me suis rendu compte que même quand on connaissait la Bible, le fait de la lire régulièrement, inconsciemment, c'est une nourriture qui sans cesse alimente votre âme. Vous pouvez passer sur un verset 10 fois, 15 fois, 20 fois, vous pensez le connaître, et puis un jour il y a un déclic qui se produit et vous voyez une chose que vous n'avez pas vue jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'attacher à la parole du Seigneur et également bien sûr à la prière. Alors je vais vous lire dans ce cadre-là, un autre verset, c'est dans Matthieu 24. Donc c'est une prophétie de Jésus. Donc chapitre 24, Matthieu 24, versets 11 à 13. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Alors que la charité ici, c'est l'amour fraternel. De plusieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, dès l'époque de Jésus, dès Jésus lui-même, dès cet instant-là, met en garde les chrétiens, que même aussi également au travers, dans les églises, il y aura des personnes qui apparaîtront et qui sembleront on va dire dans la parole, mais qui en fait auront des actions soit de créer la division, ou soit d'introduire des doctrines pernicieuses qui ne sont pas du tout celles que le Seigneur nous a données. Donc par rapport à cette persévérance que nous devons avoir, nous retrouvons également une exhortation de Paul dans Philippiens. Philippiens 2:12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme à ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc là encore, on voit bien que Paul nous invite à justement être, on va dire, régulier dans notre relation globale finalement avec le Seigneur, que ce soit à travers de la prière, que ce soit à travers de la lecture de la parole, que ce soit à travers de nos réunions ensemble, pour justement toujours nous fortifier et ne pas justement nous laisser agiter ou nous laisser influencer par l'esprit de ce monde qui, il faut le dire, est extrêmement violent. Le souhait de Satan, c'est qu'il n'y ait aucun homme, aucune femme de cette terre qui puisse se repentir et se convertir au Seigneur. Lui-même est il n'a absolument pas du tout ni l'envie de se repentir de ses actions, et dans sa chute, qui est déjà, on va dire, programmée, il veut entraîner avec lui la planète entière, si ça lui est possible. Et donc, par ce fait, tous les moyens sont utiles, que ce soit notamment la séduction, et aujourd'hui, avec la technologie qui est utilisée par l'homme, c'est un outil également entre les mains de Satan, avec la complicité des individus qui sont dans le péché, de pouvoir justement entraîner un maximum de personnes dans sa chute. Donc tout à l'heure, Jésus nous mettait en garde contre les faux prophètes. Dans l'Apocalypse, donc ça je ne vais pas le dire, mais quand vous lisez les fameuses lettres qui sont adressées aux sept églises d'Asie, parmi des églises, Jésus critique le fait qu'il y ait des Nicolaïtes qui sont apparus dans ces églises-là. Alors je n'ai pas regardé avec précision qui étaient ces gens-là, mais de toute évidence, ce sont des gens qui introduisaient des fausses doctrines dans les églises, et qui venaient perturber, ou voire même qui étaient parfois en contradiction, ou qui se voulaient en tout cas contradictoires avec l'évangile de salut qui est proposé par Jésus-Christ. Donc on voit bien qu'il est important justement de pouvoir bien connaître la parole du Seigneur pour ne pas se laisser influencer par des fausses doctrines qui pourraient comme ça surgir dans l'Église même. Et on voit bien cette description dans justement Timothée. Lorsque Paul s'adresse à Timothée dans le deuxième épître à Timothée, bon, c'est un passage que vous connaissez, c'est le chapitre 3 que je vais vous lire, de 1 à 13. Donc c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Or sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et mère, ingrats et impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Alors, je m'arrête ici. On pourrait dire, mais il parle de qui? Il a des gens du monde. Or, ça a toujours été. Donc, à qui s'adresse-t-il? Ben, en fait, il s'adresse à Timothée en parlant des gens, de certaines personnes qui, dans l'Église même, peuvent avoir ce profil-là. Donc, c'est pour ça qu'il dit « Éloigne-toi de ces gens-là », parce que Timothée, bien sûr, menait des actions d'évangélisation auprès des gentils. Mais il savait que nous, païens, comme nous sommes dans le monde, nous avons ces caractéristiques-là. Donc ce n'était pas une nouveauté. La nouveauté, c'est que ceci apparaît dans l'Assemblée. Donc c'est pour ça qu'il met en garde Timothée. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de pauvres femmes chargées de péchés, entraînées par diverses passions, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Et comme Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité, gens d'un esprit corrompu et réprouvé à l'égard de la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera connue de tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Pour toi, tu as suivi ma doctrine, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance. Mes persécutions et mes afflictions, comme celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelles persécutions j'ai supportées, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant et étant séduits. Donc voilà, l'avertissement est clair. Et pour nous, il est important d'être toujours accrochés à Jésus-Christ. Ça, c'est le point capital. En ayant une vie de prière et de relation intime avec lui, comme j'ai pu en parler il y a quelques mois de cela, à propos de ce qu'étaient les fondamentaux du christianisme, à savoir une relation personnelle avec le Seigneur. Alors, par rapport à cela, par rapport à ces gens qui apparaissent parfois dans les églises, nous avons une aide qui nous est donnée par Jean, dans l'un de ses épîtres. C'est le premier épître de Jean, chapitre 4. Passage que vous devez connaître, mais qu'on va relire ensemble. Donc, premier épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'esprit de Dieu à ceux-ci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. » Or, c'est là celui de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le monde, ce n'est pas une nouveauté. Il y a une réfutation de la personne de Jésus-Christ, de ce qu'il est et de son enseignement. Mais, insidieusement, ce genre de discours peut s'introduire également dans les églises. Donc il convient d'être très prudent et de bien faire attention. De la même manière que Jésus-Christ a dit qu'on reconnaissait le bon arbre, enfin l'arbre au fruit qu'il donnait, un bon arbre donne de bons fruits et un mauvais arbre donne de mauvais fruits. On ne cueille pas des cerises sur des épines. Alors pour vous amener à une conclusion, nous allons voir dans l'épître de Pierre, le premier épître de Pierre. Je retrouve chapitre 2, premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraudes, de dissimulations, d'envie et de médisance, désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, en vous approchant de lui, qui est la pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu, et précieuse. Donc là, le point que je voudrais souligner, c'est le verset 3. Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et donc ça, pour moi, c'est le point capital, puisque ça fait encore référence à notre relation intime avec le Seigneur, et qu'à partir du moment où on sait que le Seigneur nous aime, qu'il est mort sur la croix pour nous, et que même maintenant, sur cette vie terrestre, dans cette vie terrestre, il agit pour nous, au travers de nos demandes, de nos pétitions, dans nos prières, c'est une vérité qui est en nous, ancrée en nous, et que personne ne peut vous arracher. Donc à partir du moment où on est sûr de l'amour de Jésus-Christ, et que donc on s'attache à sa parole, eh bien, tout discours, tout mensonge ne peut pas nous séduire. C'est impossible. À condition, bien sûr, d'avoir cette relation intime avec le Seigneur, et de, bien sûr, de le suivre dans ses pas. Voilà. Et ce de quoi, bien sûr, nous devons nous nourrir également tendre. Alors, je ne vais pas le lire parce que bon, il est un petit peu long, puis vous le connaissez. C'est 1 Corinthiens chapitre 13 qui décrit justement les caractéristiques de l'amour. Mais c'est l'amour, c'est pas n'importe quel amour, c'est l'amour tel que Dieu l'a conçu et tel que Dieu veut le diffuser en nous par la foi en Jésus-Christ. Voilà. L'intitulé de ce chapitre dans ma Bible s'appelle « Ses caractères et son excellence ». Je m'attacherai à ce qui est dit dans le verset 13. « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande d'entre elles est l'amour. » Mais ce n'est pas l'amour, on va dire, nièvre, ni l'amour charnel. Il s'agit vraiment de l'amour spirituel et concret qu'a réalisé Jésus-Christ pour nous, pour nous racheter. Et pour également nous protéger, puisque même maintenant, encore maintenant, bien qu'il soit encore au ciel, nous sommes sous sa protection, à condition bien sûr d'y rester, parce que si nous nous dévions, nous pouvons également chuter. Hein. Mais il est toujours là, et c'est cet amour qui justement nous permet de nous unir et de rester fidèles ensemble, et d'être attachés à notre Seigneur, afin justement de ne pas être... tenté ni dévié par ce que nous pouvons voir dans le monde ou éventuellement peut-être vivre dans les églises si cela arrivait, et ainsi ne pas nous dévier pour être irrépréhensibles au jour où nous apparaîtrons devant le Seigneur. Merci de votre écoute.